Europa Voice numéro 124. Et comme à chaque fois, comme à l'accoutumée, nous sommes avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Actualité très chargée, bien entendu. Hein, ça fait quelques semaines que la montée en puissance, en tout cas dans l'actualité, est très présente. On le ressent au sein d'Europa Voice. Et cette semaine, on va parler de la visite d'Emmanuel Macron dans la région. Donc Israël-Palestine, au cœur du conflit. Cette visite a énormément de valeur. Il y a plusieurs choses qu'on peut lire de cette visite. Tout d'abord, Nathanaël, c'est important d'avoir un président Macron présent dans la région, notamment après la visite de Joe Biden, du Premier ministre britannique également. Ça renforce la présence à la fois française, mais également européenne.
En fait, la présence et la proactivité d'Emmanuel Macron, je crois qu'elle est analysée à la lumière, j'allais dire, de trois autres présences, de trois autres mouvements. D'abord, comme vous l'avez mentionné, effectivement, les alliés classiques d'Israël et les acteurs importants dans la région, donc Joe Biden, Rishi Sunak, sont déjà venus rendre visite à la fois aux dirigeants israéliens et pour certains aux dirigeants palestiniens et d'ailleurs aux dirigeants de la région élargie, hein, je pense notamment en Égypte et en Jordanie. Donc, il semble nécessaire que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, lui aussi, parce que la France a un rôle à jouer, puisse se rendre sur place. Et d'ailleurs, on se demandait pourquoi il avait attendu autant de temps, c'est-à-dire après 2 semaines, avant de se rendre sur place. Donc d'abord, c'est par rapport aux alliés naturels d'Israël et aux acteurs importants de la région. Deuxième élément, c'est la lecture à la fenêtre européenne. Chose un petit peu incroyable, on en parlera dans cette deuxième partie d'Europa Voice, c'est qu'on a vu pas seulement une position et des débats au sein des institutions européennes, mais on a vu vraiment une personnalisation de par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, de ce conflit-là avec des prises de position de cette dernière très personnelle. Bien sûr, les fonctionnaires européens, bien sûr, les ministres des Affaires étrangères, bien sûr, les chefs d'État, etc., auront à jouer, mais la présidente de la Commission a joué sur une ligne assez fine entre sa position personnelle et celle des institutions européennes. Et donc, c'est aussi à la lumière de cette configuration un peu nouvelle que Emmanuel Macron, lui aussi, prend un leadership et il va, parce qu'il veut aussi être vu comme un autre leader. Et puis, dernier élément, et ça a peu de choses à voir avec les visites des autres leaders, c'est que, tout simplement, de nombreux Français ont été victimes des attaques du Hamas le 7 octobre dernier, et un certain nombre de Français sont encore portés disparus ou retenus en otage. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des nationaux français, et donc Emmanuel Macron a aussi cette responsabilité-là, pardon, d'aller rencontrer ses familles et d'aller défendre ses ressortissants qui sont encore objets, malheureusement, du conflit actuel.
Ah, j'allais vous poser cette question également. La carte nationale, justement, pour Emmanuel Macron a aussi une ampleur importante. C'est vrai que vous mentionnez du fait qu'il y a des binationaux, donc des Français qui sont toujours retenus en otage et portés disparus également. Mais il y a aussi le côté l'embrasement des cités, l'embrasement de l'antisémitisme, etc. Il y a cette carte-là aussi que le président Emmanuel Macron veut jouer, avoir une implication en étant présent sur le terrain.
D'abord, je crois effectivement c'est important aussi pour Emmanuel Macron d'être sur la zone de conflit parce que sa position est de par la position classiquement pro-arabe de la France, fait que Emmanuel Macron, quand il rencontre les dirigeants sur place, il a une approche différente de celle de Joe Biden et de Rishi Sunak. Clairement, Emmanuel Macron, il a joué sur une ligne extrêmement fine qui est l'affirmation du droit d'Israël de se défendre et l'affirmation auprès de Benjamin Netanyahou, auprès de Yair Lapid, le chef de l'opposition, auprès de Isaac Herzog, qui est l'homologue d'Emmanuel Macron en Israël. Il a joué vraiment cette carte de « Israël a le droit de se défendre, la sécurité d'Israël ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a quand même voulu s'entretenir avec le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui, pour nos auditeurs de Europa Voice, n'est pas du tout, n'a absolument plus la main mise sur ce qui se passe à Gaza. Il faut le rappeler, hein, le Fatah, l'autorité palestinienne, a été chassée de Gaza par le Hamas en 2007. Donc Emmanuel Macron va quand même trouver un interlocuteur palestinien en Cisjordanie pour affirmer aussi le droit des Palestiniens à vivre dans un État en paix aux côtés d'Israël. Et donc, cette position-là, elle est aussi très française. Et j'allais dire, elle est plus équilibrée que les positions d'acteurs comme ont pu l'être celles de Joe Biden et Rishi Sunak. Ça, c'est sur la question de l'importance de la visite d'Emmanuel Macron et le fait qu'il est à la fois tenu aussi à rendre visite aux dirigeants palestiniens, enfin de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. On reviendra peut-être après, mais il y a aussi tout un aspect où c'est peut-être la première fois qu'Emmanuel Macron fait véritablement la dissociation, mais clairement, hein, entre l'autorité palestinienne et le Hamas, dont il enjoint l'inscription sur la liste au même titre que l'État islamique pour la combattre dans le cadre d'une coalition avec les États-Unis. On reviendra peut-être sur ce point-là. Mais ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, par rapport aux répercussions en France, il y a eu une flambée des actes antisémites, des simples paroles aux violences physiques sur les personnes, depuis les attaques meurtrières, terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Mais c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de montrer, et il l'a dit hein, dans plusieurs de ses messages, et notamment via Gérald Darmanin, il ne tolérera aucun incident antisémite, en tout cas que ce ne sera pas impuni et que les auteurs de ces actes-là seront poursuivis. Mais en même temps, il doit être sur le terrain parce qu'il a toutes ses exigences en tant que chef de l'État de faire avancer aussi le processus de paix et encore une fois de montrer, et notamment aux familles des ressortissants français dont certains sont encore en otage, bah, qu'il est là et qu'il joue son rôle de chef de l'État. Mais effectivement, pour répondre à votre question, il y a aussi une réponse extrêmement ferme en ce moment et d'Emmanuel Macron, de son gouvernement, via Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, par rapport à cette flambée des actes antisémites.
Je vous en avais parlé il y a quelques instants. Parlons justement de ça, de l'inscription du Hamas au même niveau que l'État islamique. C'est un moment très important, justement, notamment dans la démarche du président Emmanuel Macron. Vous l'avez rappelé, mais c'est un moment important puisque ça vient après, encore une fois, la visite de Joe Biden dans la région, la visite de Rishi Sunak dans la région, et donc maintenant la visite d'Emmanuel Macron dans la région. On sent qu'il y a une prise de conscience de ce qui se passe dans cette région et de mettre les deux éléments terroristes au même niveau.
Je crois que vraiment en termes de, j'allais dire, de messages et de ce qu'Emmanuel Macron veut faire transparaître, c'est la première fois que, j'allais dire, d'habitude, ce qui se passait, c'est que Emmanuel Macron et d'ailleurs beaucoup de dirigeants du monde occidental liaient l'avenir des Palestiniens l'assurance de la sécurité d'Israël. C'est-à-dire que Israël doit pouvoir vivre en paix avec ses voisins et que la réalité d'un État palestinien devait permettre à ce qu'Israël puisse vivre en paix, etc. C'est-à-dire que les deux éléments étaient liés. Il n'y a pas de sécurité d'Israël s'il n'y a pas de la viabilité d'un État palestinien. Et de la même manière, il n'y a pas la viabilité d'un État palestinien si Israël n'est pas capable de vivre en sécurité et de prospérer. C'est la première fois, j'ai l'impression, que dans ce narratif-là, il y a un petit changement. Il y a toujours ce lien entre le droit d'Israël de se défendre et la sécurité d'Israël adossée à la viabilité d'un État palestinien. Mais pour une des premières fois, Emmanuel Macron lit même l'avenir d'un État palestinien à une lutte sans merci, sans ambiguïté, contre le terrorisme. C'est-à-dire que même pour les Palestiniens eux-mêmes, il n'y aura pas de viabilité d'un État palestinien, il n'y aura pas d'avenir d'un État palestinien s'il n'y a pas cette lutte contre le terrorisme et contre le Hamas. Et donc, c'est un changement sémantique de raisonnement qui est majeur. Et l'inscription du Hamas sur cette liste terroriste et le fait que c'est la responsabilité aussi de la coalition dont font partie les États-Unis et la France de lutter, non pas seulement contre l'État islamique et d'autres groupes terroristes, mais aussi contre le Hamas, c'est simplement, finalement, la mise en pratique de cet avenir d'un État palestinien qui n'est conditionné que aussi par le fait qu'il y ait une lutte sans ambiguïté, sans merci contre le terrorisme. Et donc ça, c'est très nouveau. C'est une position aussi qui est difficile parce que ça veut dire que l'autorité palestinienne doit définitivement rompre aussi avec ce qui se passe à Gaza, donc entre ce qui se passe en Cisjordanie et à Gaza. Mais en tout cas, effectivement, c'est une position audacieuse, nouvelle, que la France a proposée en rendant visite à Benjamin Netanyahou en Israël ces derniers jours.
Et sur le terrain, en France, le terrain politique, tout ça s'est reçu comment? On sait qu'il y a eu des discordances, notamment du côté de la France insoumise. On disait les mots, la sémantique, l'utilisation du vocabulaire différent. Tout ça, c'est, c'est, ces démarches de Macron, elles sont reçues comment sur le terrain politique en France?
Alors, bon, il y a deux, j'allais dire, il y a deux aspects encore là. Il y a effectivement, j'ai l'impression que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, maintenant, sont un petit peu pris au piège de leur propre jeu. Ils le font totalement inconsciemment. Et Christophe, hein, c'est électoraliste, c'est clientéliste. Mais on a l'impression qu'il y a vraiment une coupure. Et c'est plus qu'une impression, hein. D'ailleurs, il y a des voix dissonantes au sein de la NUPES, et des écologistes, et des communistes, et des socialistes, qui probablement augureront de jours un petit peu moins unis pour ce front de gauche et pour la NUPES, et donc un risque aussi pour à la fois Emmanuel, pour Jean-Luc Mélenchon, d'isolement au sein de cette alliance de la gauche. Donc ça, c'est pour la LFI, on met la LFI un peu de côté. Pour le reste de l'échiquier politique, il y a plutôt cette position, j'allais dire, plus coordonnée, justement, sur cette double aspiration à la fois d'Israël de se défendre et d'assurer la sécurité d'Israël et toujours la viabilité d'un État palestinien. Là où il y a des vraies dissensions, c'est sur, j'allais dire, plus les notions d'aide humanitaire, de corridor humanitaire, les notions de trêve. Est-ce que c'est une trêve qui doit être négociée ou est-ce que simplement un arrêt des combats pour laisser un certain nombre de camions passer avec des aides humanitaires? C'est sur ces questions-là que pour l'instant, au sein du jeu politique français, mais de manière même plus globale, hein, au sein du jeu politique européen, on n'a même pas encore réussi à s'accorder parce que les positions sont légèrement différentes. Il y a des courants politiques qui n'appellent pas à cesser le feu parce qu'ils considèrent qu'en fait, il n'y a pas de cessez-le-feu possible, tout simplement, entre un État démocratique et une organisation terroriste, quand bien même des civils seraient concernés. Et là, je parle de la population gazaouie parce qu'ils sont eux-mêmes pris au piège de leurs propres dirigeants. Mais donc voilà. Pour moi, en ce moment, en France, le débat politique, il est moins sur le fait que, effectivement, LFI se retrouve assez isolé, et il est moins sur le fait qu'il y a cette double aspiration à la fois de l'assurance d'une sécurité pour Israël et de la viabilité d'un État palestinien. Les différences, elles se voient plutôt justement sur ces notions d'aide humanitaire, de corridor, mais c'est des choses qui dépassent la politique française. Et ça inclut les acteurs comme l'Égypte avec le terminal de Rafah, par là où pourraient passer toutes ces aides humanitaires.
Le Liban.
Ça intervient aussi le Liban. Emmanuel Macron l'a rappelé, hein, il a mis en garde à la fois les autorités libanaises via le Hezbollah, mais aussi les outils yéménites, qu'il faut absolument éviter d'ouvrir d'autres fronts dans la région et de faire que la situation s'embrase. Donc voilà, on est, j'allais dire, certains débats politiques internes français, à part faire parler en France, ont très peu d'influence sur la scène internationale et sur ce qui est en train de se jouer en ce moment au Proche-Orient.
Oui, tout à fait. Alors, vous écoutez Europa Voice, hein, deuxième partie de cette Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch, un peu sur la même question, hein, mais d'un point de vue européen. Maintenant, Ursula von der Leyen, la présidente donc de la Commission européenne, position un peu difficile quand même pour elle, position compliquée, puisque bah, l'Europe, c'est à la fois compliqué dans tous les États, mais elle, il y a quelques prises de position compliquées pour Ursula von der Leyen.
Alors sur cette question d'Ursula von der Leyen et de l'Europe, déjà en termes de timing, hein, il faut le préciser, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore tous les résultats des discussions qui ont lieu entre les chefs d'État et de gouvernement qui sont en train de se réunir en cette fin de semaine à Bruxelles. Donc là, on aura plus d'éléments. On fait, j'allais dire, on anticipe ces discussions à Bruxelles. Ce qui est encore une fois compliqué, on l'a vu dans cette première partie d'Europa Voice, Christophe, c'est qu'Ursula von der Leyen, elle est un peu au-delà de son rôle de présidente de la Commission européenne et a pris des positions assez personnelles. Elle s'est investie assez personnellement dans ce qui s'est passé au lendemain du 7 octobre, mais elle l'assume. Elle l'assume clairement. Elle a répondu d'ailleurs aux critiques. Il y a eu un peu moins de 1 000 fonctionnaires européens qui lui ont reproché à Ursula von der Leyen d'avoir adopté une position trop pro-israélienne. Elle leur a répondu. Elle a répondu que l'Europe avait toujours à cœur, encore une fois, à la fois d'assurer la sécurité d'Israël dans la région, mais aussi de faire prévaloir le droit et le droit humanitaire. Donc elle tient bon, Ursula von der Leyen. Ce qui est plus compliqué, Christophe, c'est que on a même au niveau des 27 des désaccords, encore une fois, européen, on a certains pays pour qui la notion de cessez-le-feu n'est pas à l'ordre du jour, d'autres qui voudraient peser plus lourdement pour que des convois militaires puissent passer. Donc, on n'a pas encore de position arrêtée des 27, et ce, malgré la réunion des ministres des Affaires étrangères à Luxembourg cette semaine. Et c'est pour ça que la réunion qui vient ou qui est en train d'avoir lieu là à Bruxelles va être importante, parce qu'elle va définir aussi la position des chefs d'État et de gouvernement des 27, et donc que l'Europe, encore une fois, puisse avoir son rôle au même titre que Joe Biden et les États-Unis, que Rishi Sunak et le Royaume-Uni, que même les individus, enfin les individuels des gouvernements d'Europe, comme Emmanuel Macron, ont eu une position très déjà ferme et déterminée sur le conflit en cours.
Mais il y a quand même eu 26 000 personnes qui ont signé une pétition qui ont demandé la résignation d'Ursula von der Leyen. C'est pas un petit chiffre, c'est forcément un coup de pression. On entend des députés européens d'un peu partout, Irlande, qui appellent à sa démission directement. Donc, à quel point c'est un défi pour elle, à quel point ça la challenge, comme on dirait en anglais.
Bon, il faut déjà analyser ces chiffres au regard du nombre d'habitants de l'Union européenne, auprès des 475 millions. Non, mais effectivement, déjà, soyons très, très, très transparents, Christophe. Ici, on essaye de discuter, de le faire de manière dépassionnée, d'analyser les faits, hein, de pas forcément prendre position, mais d'essayer de mettre en lumière et de faire de la pédagogie de ce qui est en train de se passer. Mais c'est un sujet qui est éminemment, à la fois, j'allais dire, et politisé, et qui se prête à des passions virulentes de part et d'autre. Donc cette pétition, elle est aussi là parce qu'on parle du conflit israélo-palestinien. Ça, c'est la première chose. Ensuite,
On
la
n'a
deuxième
pas
chose,
vu 26 000 signataires sur la guerre en Ukraine, hein. Ça,
on
c'est un
n'a
peu
pas
votre
vu...
point.
Non, mais c'est ce que je suis en train, en fait, d'essayer d'illustrer, c'est que pour un conflit aux portes de l'Europe, en l'occurrence entre la Russie et l'Ukraine, on n'a pas vu une telle mobilisation de l'opinion. Donc il y a aussi quelque chose qui cristallise l'opinion publique, parce que c'est le conflit israélo-palestinien. Ensuite, encore une fois, là, ce qu'on reproche, j'allais dire, ce qu'on reproche plus à Ursula von der Leyen, c'est moins la position qu'elle a eue que d'être un petit peu sortie de son périmètre en tant que présidente de la Commission, par rapport, encore une fois, aux réunions des ministres des Affaires étrangères, par rapport aux décisions des chefs d'État et de gouvernement, par rapport au vote du Parlement européen. Mais elle a le droit d'avoir son avis, et elle a finalement eu son avis autant à la fois comme présidente de la Commission que comme Ursula von der Leyen. Mais encore une fois, ce qui est en train de se jouer là, c'est plus important, parce que c'est il y a de certains pays européens, et ça, c'est plutôt aligné avec la position d'Emmanuel Macron, qui clairement pense que une catastrophe humanitaire ne pourra pas, d'une certaine façon, être endiguée si le terrorisme venait à perdurer à Gaza. C'est-à-dire que il y a une affirmation, encore une fois, beaucoup plus. Et là, encore une fois, on parle de faits, hein, de ce qui s'est passé, mais il y a une affirmation beaucoup plus claire, même au niveau de l'Union européenne, qu'il n'est pas possible de trouver une solution politique avec ce groupe terroriste. Il faudra passer par une solution politique. Cette solution politique, elle passe par les acteurs dans la région, par l'Égypte, par la Jordanie, elle passe par la viabilité et l'avenir d'un État palestinien. Mais il y a aussi, avec ce 7 octobre, une ligne qui a été franchie d'un point de vue politique pour les acteurs européens dans le fait de pouvoir ou non négocier avec le Hamas en tant qu'organisation, en tant que partenaire fiable. Et ça, c'est une vraie évolution. C'est une vraie évolution à la fois pour Emmanuel Macron, mais c'est aussi une vraie évolution des 27 au niveau européen. Ils ne sont pas tous alignés, mais déjà le fait qu'il y ait le débat, bah, ça montre que les choses sont en train de bouger en Europe.
Et on remet vraiment en cause la position de branche armée, branche politique, d'une organisation comme le Hamas.
Effectivement, c'est aussi un petit peu ce qui est en train de se jouer. Et c'est là où on disait avant que la France insoumise et Mélenchon sont pris à leur propre jeu. Ça en devenait et ridicule et pathétique, le fait de ne pas pouvoir qualifier l'organisation comme une organisation terroriste. Mais effectivement, le débat, il est en ce moment-là. Et le fait, Emmanuel Macron, lui, il est encore une étape plus loin en voulant l'inscrire dans cette coalition, au même titre que l'État islamique. Mais effectivement, le problème, c'est qu'il semble qu'il n'y ait pas de solution politique avec le Hamas, et que la qualification du Hamas comme un groupe terroriste, soit son acceptance, soit plutôt partagée maintenant au niveau des leaders européens, ce qui, encore une fois, est un vrai changement, parce que, rappelons-le, il est venu au pouvoir, le Hamas est venu au pouvoir alors je dis des pincettes, mais de manière démocratique avec des pincettes. Enfin, c'était la volonté du peuple. Alors après, le fait qu'il perdure, qu'il n'y ait pas de vraies élections, etc., ça arrive dans plein d'autres pays. Ça ne veut pas dire que les pays sont des terroristes. Même Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, ça fait plus de 20 ans qu'il est en place. Il y a quand même une ligne qui a été franchie entre le fait d'avoir été amené au pouvoir par le peuple et le fait de l'instrumentaliser et de perpétrer des actes terroristes comme ils ont été perpétrés ce 7 octobre-là. Le fait que certains reprochent la timidité, j'allais dire, de l'Union européenne sur cette question des convois militaires de cessez-le-feu à Gaza, c'est qu'il y a la prise de conscience que là, on est face à un interlocuteur qui ne peut plus rentrer dans le jeu du dialogue politique. Mais la nature ayant horreur du vide, ça veut dire que l'Union européenne elle-même doit trouver un autre acteur politique pour pouvoir faire avancer la résolution du conflit. Et Mahmoud Abbas est complètement décrédibilisé, encore une fois, depuis que son parti a été chassé de Gaza en 2007. Sa crédibilité est proche de zéro. Donc ça, c'est une vraie question aussi pour les Européens. C'est bien beau d'inscrire le Hamas comme une organisation terroriste, cette organisation terroriste, mais il va bien falloir trouver un interlocuteur politique pour pouvoir faire avancer les choses dans ce petit bout de territoire coincé entre Israël et l'Égypte.
Voilà, j'espère qu'on aura pu éclaircir un petit peu la question, les questions que vous pouvez vous poser ici à l'antenne d'Europa Voice. Merci Nathanaël.
Merci beaucoup Christophe.